Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Laurence Boone, membre du Conseil européen pour les relations internationales, économiste, Patrick Artus, économiste et co-auteur de Quelle France en 2050, face aux grands défis en Europe et dans le monde, chez Odile Jacob, également membre du Cercle des économistes, Philippe Manière, président de VSOLIS Communication. Patrick me disait juste avant le générique, il faut aussi parler de la complicité de la BCE. Bon, je le note, oui, je suis en train de le noter. Ah. Je vous ai quasi coupé la parole.
Oui, non, juste très brièvement, c'est vrai que la disparition, mais j'avais fait un papier dans les échos il n'y a pas longtemps là-dessus, parce qu'on avait fait un sondage qui montrait manifestement que le chômage, la préoccupation de l'emploi, qui était numéro un, qu'il a été pendant 25 ou 30 ans.
Oui, elle est dans
il y a 2-3 ans, elle a commencé à descendre, et puis maintenant elle est numéro 6-7.
Enfin, oui, un truc comme
bon,
ça.
Alors, il y a plusieurs explications, il y en a certaines qui ont été données, je ne vais pas y revenir. Il y en a quand même une qu'il faut mentionner et qui est bonne, c'est qu'il y a moins de chômeurs qu'avant quand même. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient d'évoquer, avec les plus et les moins, il y a quand même eu, au fil des 9 dernières années, un certain nombre de choses qui ont été faites qui font que le taux de chômage français, en gros, est tombé de 10 à 7. Enfin,
À peu près. Voilà.
Bon, alors,
presque à 10,
alors,
on est
après,
un peu plus.
Est-ce que ça veut dire que c'est génial? Oui, enfin, sauf que les Suisses, les Néerlandais, ils sont tous à 4, enfin, entre 2 et 4, quoi. Donc, c'est bien de passer de 10 à 7, mais tout le monde a évolué à peu près en parallèle, et nous, on reste plus élevé que les autres. Donc, on a des problèmes structurels qui n'ont pas été réglés. Mais, tout de même, une des raisons pour lesquelles c'est plus un souci obsessionnel, c'est qu'il y a, en fait, on s'est beaucoup rapproché du chômage structurel. Et le chômage structurel, c'est pas facteur de perturbation psychologique et politique, parce que bon, tout le monde comprend qu'il y a un chômage structurel ou un chômage frictionnel. Donc, l'essentiel du chômage anormal a baissé, même s'il reste beaucoup trop élevé. Ça explique que les
gens... Ça revient à admettre que le plein emploi à la française, ben, c'est 7.
Si on avait fait, si au lieu de distribuer des faveurs fiscales indues, on avait continué à faire la politique de l'offre en baissant les impôts, à mon avis, on aurait baissé encore un peu plus. Bon, mais on ne va pas refaire ça comme ça entre nous. Donc ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est quand même effectivement ce qui a été dit, c'est que les gens sont obsédés par le pouvoir d'achat au point qu'ils ne voient plus ce qu'on leur a donné. Je rappelle quand même, encore une fois, moi, ça ne me paraissait pas une nécessité impérieuse. On ne pouvait pas faire autrement que de s'incliner devant les soignants au moment du Covid et tout. Le soignant moyen a encaissé par mois, après les négociations qui ont eu lieu à la sortie du Covid,
à peu près
500 euros.
Il y a eu des hausses substantielles pour les
très
soignants.
Très substantielles. Et je suis heureux pour elles. Et je ne dis pas que ce n'est pas mérité. Mais quand on me dit que c'est la dèche et qu'il n'y a rien eu de fait, non.
Le niveau duquel ils partaient, les soignants, n'est pas élevé. Je suis désolée.
Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit que 500 euros en net, précisément sur l'effet de base, pardon, mais en proportion de ce qui était distribué avant, même si on est d'accord sur le fait que ce n'était pas beaucoup, ce sont des efforts très considérables qui ont été faits par la nation. Donc quand on me dit c'est terrible, les petits revenus à l'hôpital, j'ai envie de dire c'est sûrement vrai. Personne n'a le sentiment de gagner assez. Et certainement, on pourrait payer mieux ces gens-là. Mais ce n'est pas vrai que rien n'a été fait. Il a été fait beaucoup plus qu'il n'avait jamais été fait, et dans des quantums, encore une fois, très substantiels.
Et alors, qu'en est-il de la complicité de la BCE, Patrick Artus?
Non, juste un mot de réaction sur Philippe. Je crois qu'il ne faut absolument pas mesurer le plein emploi par le taux de chômage. Il faut mesurer par le taux d'emploi.
Par le taux d'emploi, oui.
Et on a un taux d'emploi qui est de 68%. Il a monté de 3 points depuis qu'Emmanuel Macron est président, dont un point qui est lié à l'apprentissage, mais 2 points. Et puis l'apprentissage, c'est pas honteux, hein, donc, mais on n'est qu'à 68 et les autres sont entre 78 et 80. Donc on a 10 points de taux d'emploi de moins que les Allemands. Et ça, c'est l'énorme problème de la France. Si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait 14% de plus d'emplois. Et on aurait à peu près 10% de plus de PIB, parce que ces nouveaux emplois seraient un peu moins productifs. On aurait un équilibre budgétaire cette année. Et donc le problème de la France, c'est qu'elle vit au-dessus de ses moyens, mais pas tellement, parce qu'il y a trop de dépenses publiques, mais qu'il n'y a pas assez de recettes parce qu'il y a un taux d'emploi qui est structurellement trop bas. Donc le seul objectif décent de politique économique, c'est de faire monter le taux d'emploi à 78%.
Et c'était Gilles Berset qui avait calculé que c'était, si on était au niveau que vous décrivez, on aurait 120-130 milliards par an.
Oui, mais c'est 5 points de PIB de plus. Bon, et alors sur la BCE, il faut voir que la BCE a entretenu cette croyance de l'argent gratuit. Enfin, quand l'État s'endette à des taux d'intérêt nominaux négatifs, c'est trop tentant. et on pense que ça va être jusqu'à la fin des temps. Et donc, il y a aussi une responsabilité de la BCE. La BCE a maintenu une politique beaucoup trop expansionniste trop longtemps. L'avait déjà fait, hein, l'avait déjà fait avant de 2017, et l'a fait à nouveau. Et donc cette alimentation par la création monétaire d'une aisance de financement des États, c'est aussi une partie de l'équation.
Et Laurence Boone,
je trouve un peu qu'on devrait être un peu plus mesuré sur la BCE, dont on a attendu qu'elle fasse ça à la fois au plus fort de la crise financière, de la crise souveraine de la zone euro et du Covid. Que les États et que les citoyens se disent qu'elle va faire ça tout le temps, c'est leur problème d'anticipation. Je ne crois pas que la BCE a été particulièrement accumulative. Pardon, je vais finir. Quand on regarde, Isabelle Schnabel faisait une présentation dimanche dernier à Kiel. Quand on regarde, et je faisais partie de ceux qui disaient que l'inflation serait temporaire avec le Covid et la crise énergétique, et on voit très bien d'ailleurs, vous avez eu les chiffres ce matin.
2,1 en rythme annuel.
L'inflation était effectivement temporaire parce qu'on n'a pas eu de surdistribution non plus d'argent si on compare aux États-Unis pendant la crise du Covid. Donc je crois que la BCE, elle a bon dos. En plus, comme elle est politique, hein, elle ne peut jamais vraiment s'exprimer en se battant avec ses petits poings comme un politique le ferait. C'est de la responsabilité des gouvernements de penser que l'argent gratuit ne va pas durer longtemps mais qu'il est là pendant la crise.
Oui, mais enfin, si je peux...
Patrick Artus,
on a une quantité de monnaie. Alors, je ne parle pas de la monnaie de la Banque Centrale. Je parle de la monnaie, de la monnaie que nous avons tous dans notre poche.
La masse monétaire.
La masse monétaire qui est 30% en Europe au-dessus de là où elle était à la fin de 2019 et qui continue à croître. Moi, je pense qu'il y a trop de monnaie dans l'économie et que ça, d'abord, ça participe au malaise parce que, effectivement, ça enrichit les riches. Hein. C'est, le supplément de monnaie fait monter les cours boursiers, fait monter les prix de l'immobilier, etc. Et puis qu'on a comme tu sais, vous savez, il y a les classes moyennes investissent en obligations, en livret A, en assurance vie, qui ont des rendements financiers bas. Les gens aisés investissent en immobilier en actions qui ont des rendements financiers élevés. On ne s'est jamais penché sur la cause du mal-être et de cette hausse très forte des inégalités patrimoniales.
Alors, il y a deux choses sur lesquelles je suis assez d'accord. Je pense que cet excédent de monnaie, comme Patrick l'appelle, est allé par exemple beaucoup dans le financement du private equity. Vous regardez aujourd'hui, les investissements des private equity baissent avec le durcissement de la politique monétaire. Donc on est en train de voir une sorte de normalisation de cet effet. Ça met toujours du temps à passer dans l'économie, mais c'est là depuis deux ans ces investissements là et puis on n'était peut-être pas obligé de rajouter en plus de la masse monétaire des investissements de d'institutions financières publiques en plus vers ce type d'entreprise aussi.
Non, mais c'est vrai,
la combinaison des deux
sur l'inflation. D'abord, moi je me rappelle cette pancarte magnifique, un train peut en cacher un autre. Il y avait une inflation de court terme circonstancielle exogène due à la guerre, etc. Il y a plusieurs facteurs, Covid, goulot d'étranglement, mais il y avait aussi, je pense, une inflation un peu structurelle qui tenait à un excès de monnaie. Donc le fait qu'on se dise, non mais tout ça, tout va rentrer dans l'ordre, bah, oui, pour le train qui passe et qui ne fait que passer, mais tout ne rentre pas dans l'ordre si on ne reprend pas de la masse monétaire au titre de l'excès de monnaie structurelle. Et donc moi je n'entends que des gens qui me disent non, c'est structurel ou c'est conjoncturel. Mais je dis, mauvaise nouvelle les gars, c'est les deux. Il fallait lutter contre l'inflation. Mais enfin, il y a un problème maintenant contre le risque de déflation, contre le risque de ralentissement économique. Mais il y a un problème maintenant. Il reste trop de monnaie en circulation. Je pense que ce que Patrick a évoqué, c'est-à-dire l'accroissement des inégalités à la faveur d'une politique monétaire extrêmement et très longtemps accommodante, c'est quelque chose qui est très voyant. Donc une partie du mécontentement, à mon avis, tient à ça. Quand vous êtes très riche, vous pouvez vous endetter. C'est triste, mais c'est comme ça. Quand vous êtes très pauvre, vous pouvez pas vous endetter. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc quand vous avez 5, 7, 10 ans où les riches peuvent s'endetter, devinez quoi, ils s'enrichissent. Alors, on ne voit pas ça de manière spectaculaire en France parce qu'il y a tous les effets de redistribution du point de vue des revenus, du point de vue patrimonial. Il y a quand même eu une petite dérive. La BCE a accru les inégalités avec, à mon avis, un exposé des motifs qui n'est pas complètement satisfaisant.
Je vais quand même dire deux choses. La première, c'est que la BCE a commencé à augmenter ses taux avant la Fed, je vous rappelle, oui. et à mettre en place des mesures de restriction de sa politique monétaire plutôt que les autres. Et à l'époque, tout le monde lui a crié dessus en disant « malheureuse, elle fait ça trop tôt ». Mais elle le fait. Et la deuxième chose, et je pense que ce que vous disiez était assez important, c'est que les Français bénéficieraient de cette hausse des marchés financiers et de cette hausse des actions si on avait quelque chose qui s'appelle le fonds de pension qui viendrait compléter la retraite. Et le meilleur moyen de faire des Français des capitalistes, c'est de leur donner des fonds de pension pour qu'ils bénéficient de ces actions.
Dieu sait si j'ai souvent utilisé cet argument en disant on dénonce constamment les dividendes, pourquoi ne pas en profiter. Je voulais avoir... Eric Heyer était l'un des premiers à réagir là, avec les programmes dans la semaine, je crois. Et le truc qui l'inquiète le plus... c'est cette menace de faire un bras d'honneur à la parole française donnée à l'Europe. C'est un vrai bras d'honneur. C'est pas « ah bah oui, j'ai pas tenu mes objectifs de déficit, je suis désolé ». Non, c'est de faire d'assumer un bras d'honneur au niveau européen. Mmh. Et ils considèrent que là, il y a quelque chose de fondamentalement grave qui n'émeut personne, Laurence.
Mais parce que, en fait, on va pas se mentir, l'Europe, c'est en grande partie ce qu'en fait la France et ce qu'en fait la France avec l'Allemagne. Ça peut être injuste parfois pour d'autres pays, mais le bloc, ce qui fait avancer l'Europe, ce qui a fait le sauvetage de la Grèce pendant la crise de la souveraine de la zone euro, ce qui a fait la mise en œuvre du plan Next Generation EU, ce qui a fait les achats de vaccins Covid, je sais que vous en avez eu les oreilles rabattues pendant cette campagne, mais ce qui fait avancer l'Europe, c'est la France et la France avec l'Allemagne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en partie, on tolère nos dérapages budgétaires. Je veux dire, il faut... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu la vraie vie comme ça. Maintenant, à partir du moment où on va avoir une France qui ne propose pas d'avancée européenne, qui va se mettre en travers, soit sur l'Ukraine, soit effectivement faire, hein, comme on dit, des bras d'honneur, mais au lieu de discuter des pour et des contre... Je remarque d'ailleurs que tout le monde est en train de rétro-pédaler sur ces sujets. Mais le fait est que l'Europe, c'est quoi ? L'Europe, c'est du consensus. Ça, c'est difficile à comprendre pour des partis politiques français. Et de la, pour reprendre un terme très à la mode, qui est un peu agaçant, de la co-construction.
Co-construction.
Aussi très difficile à comprendre pour les Français. Pour les partis politiques, pardon. Donc, effectivement, ça va proposer un sujet. Et le sujet, pour moi, il a deux conséquences immédiates assez terribles. La première, on parlait de pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce qu'on a fait l'euro ? Pour arrêter les dévaluations qui sapaient le pouvoir d'achat des ménages régulièrement comme un métronome. Ça, c'est la première chose. Et on risque de voir effectivement des effets sur l'euro. Et la deuxième chose, c'est est-ce que nous, la France, tout formidable qu'on soit, avec nos 65 millions de citoyens, on a la taille de discuter sur un pied d'égalité avec les États-Unis et la Chine ? Il ne faut pas se leurrer. Ils nous écoutent parce qu'ils savent que derrière nous, il y a 440 millions de citoyens européens. Donc si on sape ça, on va avoir une double claque à la fois sur l'euro et sur notre capacité à juste affirmer notre souveraineté à nous, puisque c'est le mot que tous ont à la bouche.
Vous voulez dire un mot là-dessus ou j'avance ?
J'entends ce que dit Laurence et je suis d'accord pour l'essentiel. L'idée que la puissance de la France ne peut passer que par l'Europe, je pense que
j'ai dit c'est aussi ça.
L'idée que, par exemple, on ne peut peser face à la Chine et face aux États-Unis que si on est européen, moi je trouve qu'elle est sympathique sur le papier, en théorie elle vole, mais elle ne marche pas cette idée, et ça se voit d'ailleurs, on pèse très peu quand on discute avec les deux autres blocs. Les Européens ne pèsent presque pas. Nos consommateurs, de toute façon les autres, ils voient bien que nos consommateurs, ils ont la liberté d'acheter ce qu'ils veulent, c'est pas la peine de nous faire plaisir pour que les consommateurs achètent des trucs américains.
C'est faux,
je vois pas très bien.
Les véhicules électriques, on est en train de leur mettre des taxes dessus.
Regardez,
on va diminuer les importations.
Non mais oui, il y a toujours des arguments.
Et on l'aurait jamais fait tout seul.
Je vois pas pourquoi.
C'est le cognac qui prend, c'est aussi bête que ça.
Non, mais le cognac prendra quand même s'il faut. Enfin,
Macron a tout seul décidé de réorienter le bonus écolo français, par exemple. Le bonus vert qu'on donne pour l'achat d'une voiture, c'est un choix politique national qui a, sans vraiment l'assumer, été un peu mis en place par un souci de protection vis-à-vis de la
voiture
chinoise.
L'Europe a plein de vertus, mais l'idée qu'elle nous permette de parler plus fort aux deux autres grands blocs, moi, je pense que c'est... quand je dis c'est pas évident, c'est littéralement, ça ne me saute pas aux yeux.
Mais je comprends que ça ne saute pas aux yeux pour deux raisons. La première, c'est qu'on, pour l'instant, c'est pas le cas. On peut se le dire, Ursula, Olaf Scholz est parti tout seul en Allemagne, le président a après emmené Ursula. Quel est le programme, puisque c'était une question que Nicolas voulait poser, quel est le programme pour cette mandature, pour les 5 années de l'Union européenne? C'est exactement de construire ça. C'est quoi? C'est de l'énergie pas cher, puisqu'il faut reconnaître qu'elle est 2 à 3 fois plus élevée qu'aux États-Unis en Chine. Et ça, ça passe, pardon, par des investissements européens. Parce que là, on a des politiques qui se battent sur les éoliennes et le nucléaire, mais j'en ai aucun entendu dire comment il allait financer les nucléaires, comment il allait financer le réseau de distribution, et ça coûte très cher pour les éoliennes, et le stockage, et ça coûte aussi très cher pour l'électricité. Et ça coûtera moins cher si on optimise la consommation au niveau européen. Et pour ça, il faut des connexions. On entend dire qu'on sort, mais je rappelle qu'en 2022, sans l'électricité fournie par l'Allemagne, on avait des coupures de courant. C'est aussi bête que ça aussi. Donc je crois qu'il faut être un peu pragmatique. Il y a ça, l'énergie. Et ensuite, et d'une certaine façon, je ne suis pas en désaccord avec Philippe, si on veut parler à pied d'égalité avec la Chine, on ne peut pas le faire tout seul. Nous, tout seuls, ça va être une bataille, mon cognac, ton bœuf, ton porc, etc. Mais nous, à 440 millions, on reste quand même le marché le plus ouvert aux Chinois. Ça nous donne un pouvoir important.
On ensuite, est un gros client des Chinois.
Mon dernier point, sur les investissements technologiques, qui fait les puces les plus sophistiquées, ce sont les Pays-Bas. Et on n'a pas besoin que de puces très sophistiquées. On a aussi besoin des puces que fabrique ST Microelectronique. Donc si on veut être un peu fort... Et sur la recherche, c'est ce que disait également Patrick, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est en européen qu'on va arriver à être le plus fort.
Patrick, vous vouliez rajouter un truc là-dessus, Patrick
Archus? Je crois qu'il y a un problème... Il y a un problème dans les politiques industrielles européennes, c'est qu'on ne peut pas faire de politique industrielle européenne.
C'est précisément ça qui est sur la table.
Oui, mais le problème, c'est que tu n'as pas de fédéralisme. Et donc, par exemple, si on décidait au niveau européen que le pays le plus avancé sur les éoliennes, c'est le Danemark, ce qui est d'ailleurs vrai, et que donc toutes les éoliennes européennes vont être fabriquées au Danemark. Ben, les Danois s'enrichiraient et il n'y aurait pas de redistribution vers les autres pays. Donc on est forcément dans une négociation de marchand de tapis qu'on va partager les installations dans chaque pays en fonction des rapports de force. Et donc l'absence de fédéralisme, l'absence de flux entre les pays de redistribution du revenu ne permet pas de faire une vraie politique industrielle européenne. La France ne peut pas être indifférente au fait que il faut qu'elle fabrique un certain nombre d'éoliennes, un certain nombre de batteries électriques et qu'elle ne peut pas sous-traiter ça à un autre pays européen. Et ça, c'est une faiblesse extraordinaire de la France, de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis sont un pays fédéral, donc installer de l'industrie ici ou là, il y a quand même...
Dans les bagarres au Congrès pour savoir où on va mettre
oui,
les sites, c'est
quand même mais, ça. Mais il y a quand même 40% de transfert, enfin, 40% de distribution fédérale.
On sait de manière aujourd'hui claire que l'Europe n'est pas une zone monétaire optimale. Voilà.
Non, mais attendez,
le fédéralisme n'existera pas.
Deux minutes, en tout cas, la France ne produit pas tout ce dont elle a besoin. Absolument. Alors, on vit dans un monde ouvert, on achète des choses, on en vend, enfin, on ne va pas tout rapatrier.
Mais sur les industries stratégiques,
on peut faire du nucléaire et leur acheter des éoliennes si elles sont moins chères.
Oui, mais.
Ce qui me frappe sur l'Europe, c'est le coût de coordination croissant. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de politique monétaire. Coût de coordination croissant et résultat de moins en moins adapté à chacun des pays. Typiquement, vous voyez, par exemple, sur les folies, sur les projets salariaux qu'on évoquait tout à l'heure, rappelez-vous du temps de la Bundesbank. La Bundesbank n'avait même pas besoin de le dire, mais on savait qu'elle risquait d'augmenter les taux s'il n'y avait pas des négociations salariales qui lui paraissaient convenables. Il n'y a plus rien de semblable avec une banque centrale européenne qui règne sur un tas de pays qui ont des négociations complètement différentes et qui n'ont pas les mêmes besoins. Donc il y a un problème de... Comment dire? La moyenne ne peut correspondre que par hasard et temporairement aux besoins d'un des pays. Et ça ne peut jamais correspondre aux besoins de chaque pays à chaque instant. Ce n'est pas possible. Donc il y a ça. Et puis il y a le coût de coordination. C'est typiquement ce qu'on dit sur les programmes de recherche, etc. Moi, combien de témoignages j'ai eu d'entreprises, de spécialistes du sujet qui vous disent. C'est effrayant. C'est-à-dire qu'on a des sommes qui sont disponibles et qui ne sont pas mobilisées par ceux qui pourraient en bénéficier, mais ceux qui devraient en bénéficier pourraient en bénéficier. Vous disent que c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'il faut 18 mois et dépenser des sommes folles en conseil pour accéder à d'argent parce que, et c'est bien normal, l'Europe doit veiller aux équilibres, ne peut pas donner de l'argent à n'importe qui, mais vous avez un système bureaucratique, vous avez un coût de coordination entre États au moment où on prend des... Donc le bazar est délicieux en théorie, mais concrètement, c'est un bousin super lourd, et ça explique une partie de notre sous-compétitivité, moi j'en suis certain.
Mais alors, je vais dire deux choses. Alors il y a trop de bureaucratie, ça on est tous d'accord, et je pense que de toute façon, dans une administration dont dans laquelle on rentre à 25 ans et on sort à 60 ans, forcément, il y a un moment où il faudrait aller dans l'entreprise, il faudrait aller sur les territoires, etc. Maintenant, je vais dire une chose. L'Union européenne, c'est quoi son instrument ? La Commission européenne, elle peut faire quoi comme politique économique ? Elle a un outil, la norme. Et c'est exactement d'une autre façon ce que vous disiez tous les deux. Quand on a de la norme, eh ben on produit de la norme pour donner des incitations, pour interdire ou autoriser des choses. Si elle avait un petit budget, un tout petit peu plus gros que celui qu'on lui a donné aujourd'hui, elle utiliserait un peu plus son budget et de la façon, on peut l'espérer, pour avoir une bonne allocation sur les priorités des pays de l'Union européenne. Donc je crois qu'il ne faut pas se mentir, tant qu'on refusera de lui donner autre chose comme outil que des normes, eh ben elle produira des normes. Le jour où on lui donne un peu de politique budgétaire sous contrôle des parlementaires européens, évidemment, on aura peut-être un peu moins d'inflation de normes.
Elle pourra au moins, enfin, elle aussi, gaspiller l'argent public.
Pas forcément.
C'est dommage, tout le monde a le droit de le faire, sauf elle.
Non, mais il y a ceux qui vous diront...
Je plaisante, oui, c'est une provocation,
mais,
Laurence.
Non, mais c'est pas complètement faux.
Mais
s'il y a un bon point, qui est que je pense que ça n'arrivera pas...
Dans le micro, Laurence, dans le micro, oui.
Ça n'arrivera pas qu'on lui donne un hostie budgétaire tant qu'on ne saura pas maîtriser nos finances publiques à nous.
100 milliards, et c'est l'argent qu'il faut mobiliser en 4 ans si l'on veut retrouver un solde budgétaire primaire positif, nous dit l'Institut Bruegel. Est-ce que ce chiffre pourrait valider, Patrick Artus, l'idée qu'en fait Emmanuel Macron a refusé l'obstacle et qu'il a préféré dissoudre l'Assemblée nationale parce que la situation étant tellement ingérable et tellement chère qu'il valait mieux repasser la patate chaude ?
Oui, alors, l'objectif faut expliquer. On a des taux d'intérêt réels qui sont à peu près notre croissance de long terme. Donc, si on veut arrêter la hausse du taux d'endettement public, il faut qu'on ait un équilibre budgétaire primaire, c'est-à-dire hors intérêt
sur la dette. Hors remboursement de la dette.
Et aujourd'hui, le déficit budgétaire primaire est d'un peu plus de 3% du PIB. Hein. Donc, ce n'est pas forcément 3 milliards, c'est au moins 80 milliards de baisse du déficit budgétaire primaire. Cela étant, le déficit budgétaire total va augmenter au fur et à mesure que les intérêts sur les dettes publiques augmenteront, mais il faut raisonner en termes de déficit budgétaire primaire. Et donc, le pire, c'est que quand vous réduisez de 1 le déficit budgétaire primaire, avec les effets multiplicateurs divers qui est que y a moins de revenus, il y a moins de consommation, il y a moins d'investissement, en général, vous n'obtenez que 1,5 de réduction du déficit public.
1 égale 0,5.
Ouais, donc voilà. Mmh. Et donc, pour réduire de 80 milliards d'euros d'ici 2027 le déficit budgétaire primaire, faut réduire de 160 milliards d'euros en réalité, si vous n'utilisez que les dépenses publiques...
Ah, vous dites 100, vous dites 160.
Ouais, c'est 160, parce que c'est en gros, c'est les résultats de simulation des modèles. Et donc 160 divisé par 3, donc en gros, ça fait 160 divisé par 3, ça fait plus de 50 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques chaque année. Ouais. Donc, personne ne croit que c'est faisable.
Hein, moi, je crois que c'est faisable. Vous voyez que c'est faisable.
Oui. Mais non.
On ne l'a jamais fait. Hein.
Non.
Même là, cette année, on fait 20 par surprise.
Moi, on me dit toujours, on l'a jamais fait. Je dis, mais d'autres l'ont fait.
En même temps.
Ah ben la Grèce, il y a 6 mois de récession, et historiquement, ça n'a aucune importance.
Non.
Et après, ça se redresse. Vous voulez des effets d'offre, vous voulez arrêter les folies budgétaires, regardez
ce qui s'est. Bon, regardez ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, je ne parle pas de la Grèce.
Ils vont très bien aujourd'hui.
Ils vont très bien aujourd'hui, simplement.
La Grèce à Portugal. Portugal, pardon, c'est plutôt de bon élève.
Le Portugal est au niveau de PIB de 2008. Ouais, donc
il avait acheté du faux PIB à crédit avant, donc voilà. Il a fallu purger. Enfin, tout ça est parfaitement normal.
Et sa spécialisation productive a chuté parce qu'ils ont baissé les dépenses d'éducation, les dépenses de recherche, les dépenses d'investissement public. Et donc, c'est devenu une économie qui fait du tourisme et des biens de consommation. Et donc, c'est pas complètement réjouissant, cette perspective, y compris par les effets, à nouveau, sur la spécialisation productive. Parce que si vous voulez baisser énormément les dépenses publiques, vous devez toucher aux dépenses d'éducation, dépenses de recherche, aux dépenses de politique industrielle. Vous pouvez pas.
On a la chance en France d'avoir tellement de dépenses publiques qu'il y a beaucoup de choix alternatifs.
Honnêtement,
fermer les grands, ça ne sert à rien.
Et donc, je pense que c'est impossible. On réduira pas de 160 milliards d'euros les dépenses publiques et on réduira pas de 80 milliards d'euros le déficit public primaire. Et donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer ? Quel est l'effet de cette impossibilité de réduire suffisamment les dépenses publiques? Et donc, je pense
Mais vous pensez peut-être qu'on n'y arrivera pas parce que ce serait socialement inacceptable et refusé par la
population. C'est inacceptable. C'est pas forcément une bonne idée parce qu'en même temps, il faut faire davantage de dépenses militaires, davantage de dépenses de transition énergétique, davantage de dépenses de politique industrielle. Et donc, ça imposerait un effondrement de la dépense sociale qui est complètement exclu. Et donc, on ne peut pas exclure qu'Emmanuel Macron n'ait pas voulu tenter ça. Moi, je pense que si j'étais Emmanuel Macron, j'aurais 10 sous pour donner le bébé à d'autres de la réduction de 160 milliards d'euros des dépenses publiques sur 3 ans.
On a 1:30 pour conclure. Est-ce que vous redoutez les réactions de marché dès lundi 1er juillet, par exemple, Laurence? On a vu que ça a un peu tangué au début, après la Dissot, mais ensuite, finalement, on a réduit le spread avec l'Allemagne, la Bourse de Paris s'est un peu reprise,
Écoutez, on ne connaît pas le résultat des élections. Moi, je vais dire juste une chose, c'est que... Si l'engagement européen est là, si l'engagement de travailler avec l'Europe est là, effectivement, on peut avoir un soutien de la Banque Centrale Européenne, et ça, les marchés le savent et ne feront pas. Si c'est pas le cas, les marchés vont se poser des questions. Après, vous avez vu ce qui s'était passé aux États-Unis au moment de Trump. Ça a duré assez peu longtemps, pour la bonne raison que les Américains ne sont pas du genre à lâcher des actifs américains pour aller acheter d'autres choses.
Bon, on a fini.
C'est fini alors.
Bah oui, c'est fini là. Bon, on n'a pas tout fait dans le programme, mais j'aime bien la phrase de Jean-Louis Bourlange dans Les Échos ce matin. Le drame français, c'est le décalage entre les besoins du pays et ses attentes. C'est un peu la conclusion de ce que vous disiez.
Mais c'est vrai, mais c'est pour ça que, enfin, on peut jamais, c'est jamais un argument de dire ah mais ouais, mais on est les meilleurs d'Europe là-dessus parce qu'ils sont.
On se retrouve après le premier tour lundi donc. Attendez, maintenant qu'est-ce que je raconte? Si, on est bien vendredi. Je suis un peu déphasé.
Donc vous voyez lundi?
Non. On se verra peut-être à Aix, je sais pas. Oui, probablement. Donc voilà, on se retrouve lundi à 9h. Merci Laurence Boone, merci Patrick Artus et merci Philippe Manière.
Merci.
Vous êtes toujours enregistré là.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.